Pour celles et ceux qui veulent vraiment réfléchir, qui veulent en savoir plus, qui veulent du concret. YouCat, Vivre en chrétien, parcours de foi, une introduction en 26 modules à partir du grand catéchisme international pour la jeunesse, le YouCat. YouCat, Vivre en chrétien, module 5. Qu'est-ce que ça veut dire « Dieu fait homme » ? Il va être question de la question probablement la plus scandaleuse de tout le christianisme que l'Église soutient depuis 2000 ans. Que Dieu a été aussi homme que n'importe quel bébé qui vient tout juste de naître. Le philosophe français Jean-Paul Sartre est avec Sigmund Freud le deuxième athée le plus flamboyant du XXe siècle. En vieillissant, Sartre est devenu très amer et radical. Il souhaitait faire partie du club de ceux pour qui Dieu est une hypothèse périmée qui mourra tranquillement et d'elle-même. Or, étonnamment, c'est justement Sartre qui, mieux que quiconque, a expliqué l'incarnation de Dieu. La théologie parle de l'incarnation, c'est-à-dire le venir dans la chair de Dieu. Pourquoi Dieu voulait-il à tout prix devenir chair ? Sartre, c'est à peine croyable, a écrit un spectacle de crèche vivante, Baryona, ou le fils du tonnerre. Il l'a écrit et mis en scène en 1940, alors qu'il était prisonnier de guerre en Allemagne, près de Trèves. La pièce était prévue pour la fête de Noël du camp. C'est une période de sa vie qui a beaucoup chamboulé Sartre. Il s'est plongé dans la lecture d'auteurs catholiques, comme Paul Claudel et Georges Bernanos. Les deux grandes découvertes que j'ai faites en camp furent Le soulier de satin et Le journal d'un curé de campagne. Ce sont les seuls livres qui m'aient laissé une impression durable. Il a fait la connaissance de prêtres, il se sentait fraternellement proche d'eux. J'y ai retrouvé une forme de vie collective que je n'avais plus connue depuis l'école normale supérieure, et je dois avouer que j'y étais heureux. Sartre a presque réussi à calmer sa détresse personnelle, le traumatisme du manque de père, mais il n'y est pas arrivé. Sartre a tout de même écrit Baryona afin de réaliser l'union la plus large des chrétiens et des non-chrétiens. Cette scénette contient un passage époustouflant où Sartre explicite sa vie sans Dieu. Baryona dit « Un homme Dieu, un Dieu pétri de notre chair humiliée, un Dieu qui serait prêt à connaître ce goût amer que nous avons dans la bouche quand tout le monde nous abandonne. Un Dieu qui par avance serait prêt à souffrir ce que je souffre aujourd'hui, c'est vraiment n'importe quoi. » À un autre endroit, Sartre fait dire à Baryona « Si un Dieu se faisait homme pour moi, alors je l'aimerais, je n'aimerais que lui. Alors des liens se formeraient entre lui et moi, et mon cheminement sur terre ne suffirait pas pour le remercier. Ce Dieu qui serait devenu homme, dans notre chair si aimable, si misérable, un Dieu qui prendrait la souffrance sur lui, ma souffrance d'aujourd'hui. Oui, si Dieu s'était fait homme pour moi, je l'aimerais, mais quel Dieu serait assez fou. » Sainte Marie, chez Sartre, dit « Ce Dieu est mon enfant. Cette chair divine est ma chair. Il est fait de moi. Il a mes yeux et cette forme de bouche, c'est la forme de la mienne. Il me ressemble. Il est Dieu et il me ressemble. Et aucune femme n'a eu de la sorte son Dieu pour elle seule. Un Dieu tout petit qu'on peut prendre dans ses bras et couvrir de baisers. Un Dieu tout chaud qui sourit et qui respire. Un Dieu qu'on peut toucher et qui vit. » Aucune phrase de la Bible n'a été considérée comme aussi scandaleuse au sein de l'Église comme à l'extérieur que Jean chapitre 1 verset 14. Et le Verbe, Dieu, s'est fait chair, il a habité parmi nous. Pour les Grecs, qui étaient portés sur tout ce qui est intellectuel et qui venaient juste mettre au rancard leur divinité mythologique, un Dieu qui se fait chair, c'est tout simplement absurde. Et même au sein de l'Église, il y a une prolifération d'hérésies. Les monophysites enseignaient que le Christ n'était pas en même temps vrai humain et vrai Dieu. il n'aurait eu que la nature divine. Le subordinationnisme disait que Jésus aurait été une sorte de Dieu de deuxième catégorie, en tout cas moins Dieu que le Père et le Saint-Esprit. Les adoptionnistes, en revanche, enseignaient que le Christ n'aurait été qu'un être humain. Lors du baptême dans le Jourdain, Dieu l'aurait en quelque sorte adopté comme son fils. Les docétistes, par contre, enseignaient que le Christ était vraiment le Fils de Dieu, mais qu'il ne se serait pas incarné dans un corps de chair, il ne serait donc pas vraiment mort sur la croix. Nestorius, évêque et patriarche de Constantinople, a été destitué au Concile d'Éphèse car il refusait de reconnaître un Dieu âgé de 2 ou 3 mois. L'Église a toujours soutenu que Jésus de Nazareth, né de la Vierge Marie, est en même temps vrai homme et vrai Dieu, et cela n'a pas toujours été facile. J'essaie de m'imaginer en train d'adorer un Dieu qui se serait tenu à l'écart des misères du monde. Je deviendrais tout de suite athée. Et je sais que ce que Sartre recherchait du fond du cœur est vrai. Un Dieu qu'on peut toucher et qui vit. Dieu a eu un visage et des traits humains. Pour celles et ceux qui veulent vraiment réfléchir, qui veulent en savoir plus, qui veulent du concret. Youcat, Vivre en chrétien, parcours de foi, une introduction en 26 modules à partir du grand catéchisme international pour la jeunesse, le Youcat. Youcat, Vivre en chrétien, module 6. Pourquoi la souffrance? Il va être question de la souffrance des pauvres, des douleurs des malades et des larmes des enfants. Aucune théologie ne peut faire semblant de passer à côté sans se décrédibiliser. Un jeune couple attend un bébé. L'enfant naît. Il n'a pas de bras. Pourquoi est-ce que Dieu laisse faire ça? Un jour, j'ai un peu provoqué un vieux prêtre en lui parlant d'une série de catastrophes qui s'étaient abattues autour de moi. Il s'est contenté de hocher la tête et de dire doucement une seule phrase « Dieu ne commet pas d'erreur ». J'ai encaissé le choc et j'ai mis un certain temps à accepter cette phrase. Un jour, j'ai rencontré une maman qui avait un enfant atteint du syndrome de Down. Elle m'a dit « Pour rien au monde, je ne voudrais échanger Félix pour un autre enfant. Il est le rayon de soleil de notre famille. » Leibniz a inventé le mot « théodicée », en grec « justice de Dieu », pour traiter de la question de savoir comment Dieu, qui est bon, peut en même temps accepter la souffrance. Or, tout le monde doit faire avec la souffrance, que l'on croit en Dieu ou pas. Celui qui ne croit pas peut penser que la vie est comme une loterie et certains n'ont tout simplement pas de chance. Les chrétiens, eux, disent que ce n'est pas possible. Les larmes d'un seul enfant suffiraient à montrer l'absurdité de l'univers s'il n'existait pas quelqu'un pour essuyer toutes larmes de leurs yeux. Même si les chrétiens n'ont pas non plus de formule magique pour faire disparaître la souffrance comme par enchantement et prouver que Dieu est bon. Les chrétiens, au même titre que les autres êtres humains, ne savent pas quoi dire face à la profusion de personnes innocentes qui souffrent. Pas seulement les personnes d'ailleurs, les animaux aussi. D'une certaine manière, toute la création est touchée. Cependant, les chrétiens sont convaincus que la vie vaut la peine d'être vécue, que chaque vie vaut la peine d'exister, car c'est Dieu qui la donne. Même s'ils doivent s'attendre à ce qu'on leur pose des questions sarcastiques. Où était donc votre Dieu quand ceci ou cela est arrivé? Dans ces moments-là, que font les chrétiens? Ils passent la question à Dieu, quelquefois en pleurant, quelquefois avec une pointe de rébellion dans la voix, comme par exemple Romano Guardini. Pourquoi, ô Dieu, tous ces terribles détours, la souffrance des innocents, la culpabilité ? D'ailleurs, Guardini disait aussi que le jour du jugement dernier, il ne se laisserait pas seulement remettre en question, mais qu'il aurait aussi des questions à poser. Ce n'est pas incompatible avec la confiance en Dieu. La Bible elle-même ne fait pas abstraction de la question de la souffrance. Il y en a qui interpellent leur Dieu, ils vont même jusqu'à l'accuser. « Pourquoi, Seigneur, es-tu si loin ? Pourquoi te cacher au jour d'angoisse ?» dans les psaumes. Et puis il y a ce pauvre bougre, Job, qui a tout perdu. « Vers toi je crie, et tu ne réponds pas. Je me tiens devant toi et tu me fixes du regard. Et alors, que dit Dieu ? Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Avons-nous de l'importance à ses yeux ? Dieu ne commet-il vraiment pas d'erreur ? La question sur Dieu et la souffrance reste un mystère, même si elle va de pair avec un certain nombre de certitudes. En effet, nous savons une chose, Dieu est tout-puissant, sinon il ne serait pas Dieu. Et nous savons que Dieu a créé un monde bon. L'existence du mal et de la souffrance, à juste titre, nous interpelle. C'est déstabilisant, comme quelque chose qui ne devrait pas exister. La Bible dit que le monde est fondamentalement infesté par le mal, mais que Dieu n'en est pas la cause, qu'il ne peut pas en être la cause. Dieu est l'ennemi du mal. Il a des pensées de paix et non de malheur. On peut même lire chez Isaïe, « Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. » Mais au fond, ce n'est qu'avec Jésus que tout s'éclaircit. En son Fils, Dieu lui-même entre dans la souffrance de sa création jusqu'à cette extrémité radicale où le Fils mourant crie vers son Père « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce qui pourrait sembler la mise en accusation ultime de Dieu est en réalité une phrase tirée du psaume 21. La première moitié de ce psaume se fait l'écho d'un être trahi, alors que la deuxième moitié est un chant de louange inégalable au Dieu qui sauve. Car il n'a pas rejeté, il n'a pas réprouvé le malheureux dans sa misère. Il ne s'est pas voilé la face devant lui, mais il entend sa plainte. Le Père n'abandonne pas son Fils à la mort. Il le ressuscite pour une vie nouvelle, et avec lui tous ceux qui croient en lui. C'est ainsi que saint Paul pourra dire, « Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout pour contribuer à leur bien. » Je crois que même de ce qu'il y a de pire, Dieu peut tirer du bien, et qu'il le veut, disait un théologien protestant, Dietrich Bonhoeffer. Il a écrit cette phrase dans la cellule de la mort où les nazis l'avaient enfermé. Pendant 4 mois avant son exécution, face à la mort, le résistant a aussi écrit un poème qu'il a envoyé à sa fiancée. « Ô fidèle et silencieuse présence de puissance bienveillante, qui merveilleusement protège et console. Et si tu nous tends le lourd calice, l'amer calice de la souffrance rempli jusqu'à ras-bord, nous le recevrons, reconnaissant, sans trembler, de ta main bonne et aimée. » Pour celles et ceux qui veulent vraiment réfléchir, qui veulent en savoir plus, qui veulent du concret. YouCat, Vivre en chrétien, parcours de foi, une introduction en 26 modules à partir du grand catéchisme international pour la jeunesse, le YouCat. YouCat, Vivre en chrétien, Module 7. Pourquoi la croix ? Il va être question de savoir pourquoi les chrétiens ont choisi précisément le plus brutal des instruments de torture de l'Antiquité pour en faire leur image de marque et pourquoi ils se mettent à genoux devant un condamné à mort, anéanti et perclus de douleur. Les Antonites d'Isenheim ont commandé auprès de maître Grunewald un véritable chef-d'œuvre. Un retable dont le panneau central représente une crucifixion qui, par son réalisme poignant, dépasse tout ce qui avait été peint jusqu'alors. Les mains sont crispées de douleur. Le corps est décharné, il n'a plus que la peau sur les os. Il est recouvert de plaies et de pus. Une couronne d'épines sur la tête, que du sang et des cicatrices. Les moines l'ont installé dans la chapelle. Chaque jour, ils y apportaient les malades incurables, ceux qui souffraient du mal des ardents, l'ergotisme, ou ceux dont le corps était recouvert de bubons de peste bleuâtre, se reconnaissaient dans ce crucifié qui leur ressemblait. Les Antonites considéraient que prier devant ce crucifix était une quasi-medicina, quasiment un médicament. Se moquaient-ils de ces malheureux ? Était-ce vraiment nécessaire d'étaler leur propre misère sous les yeux de ces infirmes ? C'est ce que nous dirions aujourd'hui. Nous aurions plutôt tendance à donner à ces moribonds des antidouleurs opiacés et à leur montrer des vidéos de Mr. Bean. Au Moyen-Âge, ce type de remède illustrait sans doute trois messages. 1. La solidarité de Dieu. 2. Le regret des péchés. 3. L'espérance d'une rédemption totale. Ce qui, à première vue, pourrait paraître cruel, mérite que l'on s'y penche plus en détail. 1. Lorsque l'on vit une grosse épreuve, le plus dur, c'est souvent de se sentir abandonné de Dieu et des hommes. Il va falloir que j'assume tout seul. Or, c'est très consolant quand d'autres personnes accablées par une épreuve sont proches de vous. Et c'est doublement consolant quand Dieu est là. Que voulez-vous que je fasse quand ça va mal, avec un Dieu entouré d'angelots, mais que je ne trouve pas là où il devrait être, dans ma souffrance ? Avant, on disait « Offre tes souffrances avec les souffrances du Christ ». Mais ça, c'était avant. En français moderne, ça donne « Fais de tes souffrances une offrande pour d'autres. Fais-le avec Jésus, qui a souffert pour toi sur la croix, qui a offert sa mort pour toi, pour ta rédemption et pour la rédemption du monde entier. » 2. Quand on côtoie des personnes qui tutoient la mort, on se rend souvent compte que la pire des souffrances, c'est la souffrance psychique. On regrette de ne pas bien avoir vécu sa vie, les blessures que l'on a infligées à d'autres, les personnes que l'on a quittées ou auxquelles on doit des choses. Dans ces moments de regret, de contrition, de pleurs sur une vie brisée, quelquefois en plein vol, savoir qu'il y a quelqu'un qui peut tout transformer en bien, qui souhaite que mon histoire personnelle devienne une histoire qui finisse bien, ça console, même à la toute dernière minute. Dans la croix est le salut, dans la croix est la vie, dans la croix est l'espérance, nous dit la liturgie du Vendredi Saint. 3. Les chrétiens meurent souvent en tenant la croix dans la main ou en la regardant. Jésus nous ouvre des horizons, on voit très loin, plus loin, pas seulement jusqu'à, au choix, l'incinération, des obsèques en mer ou un enterrement classique. La vie va jusqu'à la résurrection des morts. La vraie révolution, celle qui transforme radicalement la vie, c'est Jésus-Christ qui l'a accompli à travers sa résurrection. Par la croix et la résurrection, comme le dit le pape François. Toutes les religions du monde se posent la question de savoir comment échapper à la souffrance. On pourrait poser la même question par rapport à la mort. Imaginons que les Antonites, au lieu d'une croix, aient acheté la statuette d'un Bouddha avec sa sérénité de bon air et les placé devant leurs malades. Le bouddhisme dit de manière laconique « la vie est souffrance ». Et cette souffrance ne s'arrêterait plus jusqu'à ce que nous arrivions à nous détacher de la cause de toute souffrance, de nos désirs, de nos souhaits. En ce qui me concerne, je ne souhaite pas devenir parfaitement mal ou heureux, mais plutôt arriver au but ultime de mes désirs, la rédemption. Je souhaite avoir la vie en abondance, une vie qui ne s'arrête pas. Je ne souhaite pas me détacher de ma vie. Compter la réserve de joie que j'ai à disposition avant qu'elle ne soit vide. Je suis chrétien, et quelle que soit l'épreuve dans laquelle je tombe, je sais, je m'en sortirai. » Don Elder Camara a dit un jour : « Un homme sans religion est comme un randonneur sans objectif, une question sans réponse, un lutteur sans victoire, et en mourant sans vie nouvelle. » Cet archevêque aurait dû plutôt dire « sans religion chrétienne ». Plus on retire les croix des salles de classe, des tribunaux et des sommets de montagne, et plus les chrétiens doivent devenir saints selon l'image du crucifié qu'ils portent dans leur cœur. Car la croix laisse entrevoir la joie, le lever du soleil, la lumière de la résurrection. Pour celles et ceux qui veulent vraiment réfléchir, qui veulent en savoir plus, qui veulent du concret. Youcat, Vivre en chrétien, parcours de foi, une introduction en 26 modules à partir du grand catéchisme international pour la jeunesse, le Youcat. Youcat, Vivre en chrétien, module 8. Pourquoi avons-nous besoin de l'Église ? Il va être question de ce qu'est l'Église, une façade et un mystère, quelque chose d'humain et en même temps de divin, un cours d'eau qui permet que la vraie vie arrive jusqu'à nous, un lieu où partager l'amour, un foyer plein d'amour. Pour comprendre le cœur du mystère de l'Église, il faut regarder cette icône, page 54. On y voit Marie, les bras ouverts, au milieu d'elle un cercle dans lequel se trouve l'enfant Jésus. À première vue, c'est juste une représentation mariale. Or, depuis toujours, Marie est considérée comme l'archétype de l'Église. Pourquoi ? Quand il s'est fait homme, Dieu a habité dans son corps. Ça va même plus loin. Jésus a été la raison d'être de Marie. Elle était autour de lui, il était en elle. Et en fait, c'est comme ça que doit être l'Église. Un lieu où le ressuscité puisse vivre. Un lieu de l'amour parfait et de la disponibilité. Comme le jour où Dieu a frappé à la porte de cette jeune fille de Galilée. Dieu cherchait un endroit où demeurer. « Que tout m'advienne selon ta parole », a dit Marie à l'ange du Seigneur. Ce n'est pas seulement à ce moment précis que Dieu a cherché un endroit où Jésus pourrait mener sa vie. Il le cherche encore aujourd'hui, parmi nous. C'est la raison pour laquelle, également, on dit que l'Église est le temple du Saint-Esprit. Le mot « temple » est synonyme de « lieu saint ». Certes, Dieu est partout. Mais il est souvent difficile de distinguer s'il s'agit de quelque chose de divin ou de quelque chose de purement humain. En lisant l'Écriture sainte, c'est fascinant de voir que Dieu veut vraiment habiter parmi nous. Notre mission commune, c'est de faire en sorte que Dieu se sente chez lui, chez nous. Toutefois, nous ne sommes pas obligés de construire un temple tout seul. Beaucoup y ont déjà collaboré, et au fond, c'est Dieu lui-même, le Saint-Esprit, qui jour et nuit a construit et construit encore la demeure de Dieu parmi nous. L'Église n'a aucune autre raison de vivre que Jésus lui-même. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'être là, autour de Jésus, et de le laisser agir. Alors nous sommes Église. Dans l'Évangile de Saint-Luc, Jésus dit « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu » et la mettent en pratique. L'Église est la famille de Dieu dans le monde, a dit le pape Benoît XVI. Donc, dans un premier temps, l'Église, c'est le Christ vivant qui, aujourd'hui, vit parmi nous. C'est seulement après qu'arrive sa famille, nous, les imparfaits, nous, les pécheurs, qui en plus ne formons qu'un corps avec Jésus. Oui, Jésus s'est tellement attaché à nous qu'en quelque sorte nous sommes devenus un corps avec lui. C'est ce que dit clairement la Bible à plusieurs endroits. Saint Augustin a dit une parole très profonde sur ce qui se passe quand nous recevons la Sainte Communion. « Recevez ce que vous êtes, le corps du Christ, pour que vous deveniez ce que vous recevez, le corps du Christ. » Lors du Concile Vatican II, on a redécouvert la très ancienne image biblique sur l'Église, l'image du nouveau peuple de Dieu qui avance et chemine entre les persécutions du monde et les consolations de Dieu. L'ancien peuple de Dieu, c'était le peuple d'Israël, avec lequel Dieu avait fait un long bout de chemin. Sans pour autant oublier le peuple d'Israël, Jésus s'est alors créé un nouveau peuple qui entraîne sur le chemin vers Dieu des personnes de tous les peuples et de toutes les cultures. En regardant ce qu'est l'Église aujourd'hui, on est étourdi par tout ce qui s'est passé au cours des 2000 dernières années, on s'y perdrait presque. D'un côté, on peut contempler l'énorme institution, avec ses cathédrales, ses prêtres et ses évêques, évoquer le denier de l'Église ou encore le Secours catholique. D'un autre, il y a la réalité spirituelle de l'Église, avec les vocations. On voit des personnes qui prient ou qui donnent leur vie à Dieu. Ces deux réalités vont ensemble, le spirituel et l'institutionnel. Sans l'institution, l'Église ne pourrait pas exister dans le monde. Elle a besoin d'argent pour aider les autres, pour aménager des lieux de rencontre, et elle a besoin de personnes qui remplissent une mission bien précise. Mais tout ceci ne serait qu'un dispositif froid et inanimé si le spirituel, c'est-à-dire la présence vivante de Dieu en l'Esprit-Saint, ne constituait pas le cœur de l'Église. L'Église n'est pas une fin en soi. Dieu n'y trouve pas la moindre joie si elle reste tournée sur elle-même. Il l'a créée à cause des hommes. Elle doit être le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. L'Église ne doit justement pas se regarder le nombril. Elle doit servir l'homme par amour. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. L'Église est complètement dans son rôle quand elle remplit trois missions. Elle doit annoncer la parole de Dieu, proclame la parole, intervient à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fait des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Elle doit donner les sacrements et célébrer la messe, car ce sont les occasions décisives où Dieu peut nous travailler, nous transformer, nous libérer et nous sauver.